Chapitre 16. Les propos d'Eugène que je rapporte ne sont évidemment pas à la lettre les phrases qu'il a prononcées. Je n'ai pourtant pas l'intention de lui prêter des mots qu'il n'aurait pas dit. J'essaie de lui être fidèle, mais la mémoire et le langage agissent, malgré moi, comme des recadrages d'une réalité qui a indubitablement existé, mais qui appartient à un passé qui s'éloigne. Je me rends compte qu'écrire est une inhumation qui ensevelit tout autant qu'elle met de nouveau au jour. Le cinéma n'opère pas de la même façon, mais il est vrai qu'il n'est pas constitué non plus de la même matière. La voix d'Eugène, si elle demeure vivante et nette dans la partie de mon cerveau où sont conservés les sons qui me touchent, ne pourra jamais se lire dans mes phrases. Le vocabulaire que je lui prête est en vérité le mien, car à part quelques moments où, comme des fulgurances, ces mots percent l'oubli et s'installent dans mon récit, ils ne peuvent exister sans moi, sans mon intercession. C'est pourquoi, hélas, à l'inverse de ce qui aurait eu lieu si je l'avais filmé durant nos conversations et les scènes que je rapporte, il m'est impossible de donner la moindre idée du grain de sa voix, de ses inflexions, de son tempo, ni de ses gestes, de la façon dont son visage s'animait. Et quand bien même j'aurais pour principe de décrire avec une exceptionnelle précision la façon dont ses traits bougeaient au fil des conversations, ce dont je me souviens parfaitement, cela deviendrait artificiel car j'aurais l'impression d'opérer une série de gros plans successifs, macro-photographiques, alors que chacun sait qu'on perçoit une impression générale et immédiate de celui ou celle qui est assis en face de nous, impression faite de centaines de détails, certes, mais qui sont appréhendés et combinés en une fraction de seconde et non pas relevés les uns après les autres. Mon ami est réduit à une présence schématique. Son corps s'est défait de ses nombreuses dimensions pour n'être plus par le biais de mon entreprise qu'une enveloppe plate, fidèle et infidèle, comme peut l'être un dépliant touristique d'une ville par rapport à la cité dont il parle, une carte topographique en regard du paysage qu'elle reproduit. D'ordinaire, j'utilise les mots pour exprimer des actions, établir des décors dans le cadre d'un scénario. Le langage, alors, se veut d'une pauvreté et d'une précision digne du mode d'emploi d'un appareil ménager. Il ne s'agit que de donner au lecteur une idée de ce que pourra être, au final, sur un écran, la scène dont il est question. Je découvre, depuis quelque temps, ce que peut procurer le langage quand son but n'est pas d'être au service d'autre chose que lui-même. J'ai entrepris ce texte comme on espère reprendre une conversation interrompue, comme on tente de tisser un piège léger et invisible, susceptible de capturer les voix et les instants perdus. La mort d'Eugène ne m'a pas seulement privé de mon meilleur et seul ami, elle m'a aussi ôté toute possibilité de dire, d'exprimer ce qui en moi s'agite et tremble. Elle m'a également fait orphelin d'une parole que j'aimais entendre et qui me nourrissait, qui me donnait, à la façon dont opère un radar, la mesure du monde que seul, désormais, je ne parviens à prendre qu'imparfaitement. Je me suis rendu compte, Eugène disparu, combien notre amitié était une amitié de mots, et combien ces mots échangés avaient constitué pour moi durant des années une charpente de cette maison que nous tentons tous de construire avec patience et difficulté, et qui s'appelle la vie. La mort d'Eugène a interrompu le chantier. Si certaines pièces sont achevées et me satisfont, beaucoup d'autres nécessitent des interventions plus ou moins importantes, d'autres encore n'en sont qu'au stade d'esquisse sur la table de l'architecte. Il me semble aujourd'hui que grâce à ce récit libre dans sa forme, dans son agencement et dans son déroulé, non seulement je force Eugène à rester auprès de moi, je le maintiens sous une sorte de respirateur artificiel, dans un coma qui n'est pas tout à fait la mort, mais je reprends aussi les travaux de ma maison. J'avance sans doute moins vite et travaille moins bien que lorsque nous étions deux, mais je continue. Dans le même mouvement, le texte devient le lieu de notre amitié. Eugène est là, dans les pages, les lignes ou entre elles. Le récit est sa chambre plutôt que son tombeau. Et Ninon a raison. Peu importe que la dalle de son monument soit de simple ciment et qu'elle s'effrite au fil des mois, Eugène n'est plus en dessous. Il est ici. Le texte est devenu l'arbre du pays Toradja. Elena veut que je l'accompagne cet automne en Croatie. Elle désire me faire découvrir Pula, une ville côtière où elle a passé les 10 premières années de sa vie. Le léger accent qu'elle porte encore comme un souvenir de parfum sur une peau est le témoin de cette enfance. Cela me touche beaucoup qu'elle ne l'ait pas perdue, qu'il subsiste toujours en elle, encore aujourd'hui, une part de l'enfant qu'elle fut et qui ne veut pas quitter la ronde. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Je ne réponds rien. Je botte en touche. Je prends prétexte du projet du film. Que serait le monde si nous tous disions la vérité ?